Simple Colombe, Mémoire d'une novice récidiviste, première partie, premier pas sur la planète Terre, adolescence. Sainte Teresa d'Avila, sa fougue et ses colliers. Oh mademoiselle, ce n'est pas une lecture de votre âge. La vendeuse de la librairie catholique, quinquagénaire un peu fanée, visiblement choquée, secouait la tête. On aurait dit que j'avais proféré une indécence. Pourtant, j'avais déjà lu des biographies pour adultes autrement plus corsées. Les vies de Napoléon Ier ou III, de la marquise de Pompadour, de la duchesse de Montespan, de Talleyrand, de Jules César et d'Agrippine, de Cléopâtre, d'Alexandre le Grand et d'une dizaine de rois de France m'étaient en partie déjà passées entre les mains. L'histoire de la Révolution française, avec ses noyades obscènes dans la Loire, ses têtes sanglantes se promenant sur des pics, et ses prêtres fidèles pourchassés comme des chiens ou enchaînés nus sur des bâtonnets grillés, étaient ancrés dans mon cinéma intérieur. Alors la vie d'une sainte comme Thérèse d'Avila ne pouvait que me faire du bien. Et puis, pourquoi pousser des cris d'orfraie, puisque j'avais déjà lu le livre en question par le biais de la bibliothèque municipale depuis des années. En 1979, suite à sa lecture, je voulais déjà fermement devenir carmélite. La collégienne que j'étais, toute à cet objectif et à cet appel, ne se mêlait pas aux enfantillages amoureux des adolescents en herbe. Signe et gage de ce secret indicible, je portais ostensiblement une médaille de la Sainte Vierge et même une bague où un esprit non averti ne voyait que du feu. En fait, en 1982, je ne déclarais rien de tout ceci à la vendeuse décontenancée, mais je me contentais d'insister en n'ayant pas une haute idée de son envergure d'esprit. Que Dieu me pardonne. Cette dame pratiquait manifestement en matière pédagogique le protectionnisme à outrance. Mais dans une société où les enfants sont confrontés dès leurs plus jeunes années à toutes les turpitudes, rien qu'en ouvrant les yeux dans la rue ou les supermarchés, quelle sottise! Notre seule protection contre le mal est désormais l'Esprit de Dieu qui produit en nous des anticorps et l'évangélisation des intelligences. Cacher le réel, entretenir la niaiserie, attitude intenable et contre-productive, pensais-je. Amener les personnes à réfléchir davantage sur les tenants et les aboutissants de leurs actes, voilà la voie. Et la vie de Sainte Thérèse d'Avila allait se révéler un ouvrage des plus profitables pour mon avancement spirituel, ne serait-ce que pour mieux passer le cap de l'adolescence, zone tumultueuse et incertaine. Ses réflexions profondes et ses fines observations ont su m'enseigner mieux que tout discours maternel, que du reste je n'ai pas connu, étant plutôt livré à moi-même et à mes seules lumières. Ce livre m'a impressionné au dernier point. J'en savais des pages par cœur. Oui, c'est à travers cet ouvrage passionnant comme un roman de cap et d'épée, vivant, humain, spirituel et coloré de Marcel Auclair, que j'ai perçu l'appel au Carmel. À dire vrai, chez Sainte Thérèse, les défauts d'adolescente me parlaient autant que ses qualités. Je citerai dans ses traits de caractère son goût pour la parure, sa fierté, mais aussi sa facilité relationnelle, son humour populaire et ses dons littéraires qui me la rendaient proche. Une parole comme « Elle pleura beaucoup quand elle dut retirer ses longues boucles d'oreilles qui lui descendaient jusqu'aux épaules et son collier d'or qui lui faisait quatre fois le tour du cou » frappa beaucoup l'adolescente que j'étais. Si une telle personne avait terminé sainte, il y avait de l'espoir. Les individus normaux, avec leurs défauts visibles et leurs passions, étaient appelés eux aussi à la sainteté. J'étais d'ailleurs touché par la délicatesse exquise de Jésus, qui, dans des visions qu'il devait lui accorder plus tard, avait égard à son goût pour la parure et au sacrifice qu'elle avait fait, en lui offrant des joyaux surnaturels, dont un collier paradisiaque. Dieu n'était pas un ingrat et savait reconnaître les sacrifices effectués. Il s'adaptait à sa culture, à ses goûts et à sa personnalité en lui parlant dans sa langue maternelle, si l'on peut dire. Merveille. Mais il y avait bien d'autres aspects où je retrouvais un reflet de mon âme. Sans vouloir trop dévoiler mes motifs intérieurs qui sont le secret du roi, je dirais que c'est le désir de contribuer à la gloire de Dieu et au salut des âmes qui m'a appelé à la vie carmélitaine. J'étais interpellé également par la parole de Jésus sur l'étroitesse de la route menant au salut que peu empreinte et par l'appel de Notre-Dame de Fatima au sujet du salut des âmes. De plus, je voulais aussi vivre cette splendide intimité sponsale avec le Christ que Thérésa illustrait avec feu et qui constitue le mystère même de la révélation chrétienne. La vie éternelle, c'est de te connaître, toi le seul vrai Dieu, et de connaître celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Connaître dans la Bible n'est pas qu'intellectuel, c'est une connaissance qui est une expérience complète de la personne et s'effectue dans l'amour. C'est un terme à connotation conjugale. Bien sûr, je savais que la connaissance complète du Christ, la vision béatifique, est réservée à l'au-delà de la mort. Ici-bas, nous ne pouvons recevoir de ce bien incomparable que les petits échantillons des fiançailles avec des tribulations et en marchant dans la nuit de la foi. Bien plus tard, un touriste allemand avouera à la carmélite que j'étais devenu que sa fille, impressionnée par le même ouvrage, était entrée chez les Clarisses. Oui, nous n'avons pas à imiter servilement, mais chacun doit trouver sa propre voie. Ce qui n'exclut pas, bien sûr, que l'on puisse emprunter un chemin qui a fait ses preuves avec d'autres. Tout est affaire de discernement libre où l'on part à la rencontre de son cœur profond.